laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi. Billets et passeports sur chantadoussac.com.
Cette semaine à la vie en BD, Kiri est mon vœu le plus sincère, Alex Lévesque et dessine Bandé. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour parler bande dessinée, pour parler 9e art au fil de la prochaine heure. Et ben, cette semaine, on aura une consonance un peu axée sur le web également, puisque pour nos deux invités, le web a été un outil important et l'est toujours un outil important donc de diffusion de leur création. Alors, en deuxième moitié d'émission, on va jaser avec Alex Lévesque, qui aujourd'hui est humoriste, qui est rédacteur et également qui est toujours auteur BD et qui s'est illustré avec la série Dessine Bandé, qui a connu une belle popularité au Québec au fil de la dernière presque décennie. Et on parle donc avec lui du développement, de l'évolution de cette série, autant que d'humour absurde et autres éléments. Alors ça, c'est en deuxième moitié d'émission. Pour ce qui est de la première moitié, dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Kiri. Kiri, qui est une autrice française de Webtoon, qui diffuse sur Webtoon France. Webtoon, qui est une plateforme de diffusion et une application de diffusion qui est utilisée sur des téléphones cellulaires principalement. C'est une mouvance très, très forte qui vient de Corée du Sud et qui est extrêmement populaire actuellement du côté asiatique, du côté français. Pour les chiffres, pour Kiri, on parle d'environ une communauté de 100 000 personnes qui sont abonnées à ses comptes sur Webtoon, 6 millions de lectures, et ça, c'est les statistiques de 2023. Alors, qu'est-ce qui amène au Webtoon? De quelle façon on utilise ce médium-là? Et on regarde, dans le fond, sur son travail en général. Alors, c'est ce qu'on vous propose, donc, dans cette rencontre avec Kiri, cette semaine à La Vie en BD. Kiri, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, en fait, faut dire que le Webtoon, au Québec, on en entend peut-être un peu moins parler qu'en France. On en entend encore moins parler qu'en Corée du Sud. Pour nous situer, en fait, d'entrée de jeu, vous êtes une des autrices françaises de Webtoon qui figure parmi les plus lues. En fait, je pense que vous avez démarré en 2021 le Webtoon « Mon vœu le plus sincère ». Vous avez cumulé à peu près 6 millions de lectures, une communauté de 100 000 lecteurs en date de 2023, donc il y en a probablement encore un peu plus depuis mes dernières statistiques. Initialement, dans le fond, je pense que vous êtes arrivé un peu au Webtoon par hasard, au détour d'un concours, au détour d'une opportunité, dans le fond, qui s'est présentée.
C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, de ce que j'ai cru comprendre ces derniers jours en parlant avec des Québécois, ici, ce qui s'est passé pendant le premier confinement, ça a été une grosse émergence du manga où ça a pas mal explosé. En France, il s'est passé la même chose, mais avec le Webtoon. Parce que tout le monde était chez soi, tout le monde, j'englobe, je fais une grosse généralité, mais voilà. Et c'était un accès à la lecture qui était gratuit, parce que les épisodes ne sont pas payants. Et c'est quelque chose qu'on peut lire sur un objet qu'on a tous, le téléphone ou un ordinateur, une tablette. Et du coup, il y avait ce côté très accessible où tout le monde un peu a foncé dedans. Et Webtoon a bien saisi l'opportunité et a lancé son premier concours de créateurs pendant le premier confinement. Donc forcément, moi, comme je faisais de la BD à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, on me l'a beaucoup partagé en me disant « N'hésite pas à participer, il y a un gros prix à la clé, au pire, si tu perds, c'est pas grave. » Et voilà. Heureusement qu'ils me l'ont dit, parce que j'ai perdu. Mais par contre, moi, j'ai découvert le webtoon comme ça. J'ai vraiment appris que la plateforme existait 3 jours avant le concours. Et pareil pour le média. Donc j'ai tout découvert à ce moment-là. Et au fil du temps, j'ai appris à maîtriser le truc, quoi.
Oui, parce que dans le fond, l'élément distinctif, vous l'avez dit, dans le fond, c'est fait pour lire sur son téléphone. Donc, on est vraiment dans du scrolling de bas en haut, essentiellement. Donc, on découvre les cases. Donc, ce qui fait que, j'imagine, dans une architecture de création, de travail, et quand on est habitué de lecture de droite à gauche avec une planche comme élément de référence, là, c'est vraiment la case qui prend toute son importance, mais dans laquelle il y a quand même beaucoup de malléabilité. Je veux dire, c'est pas obligé des petites cases, c'est pas des grosses cases. Il y a une liberté d'imposer un rythme de lecture au lecteur aussi à travers cette architecture-là.
Mais complètement, parce que le webtoon n'est un fardeau, le format webtoon n'est un fardeau que si on décide que c'en est un. De la même manière qu'on ne fait pas les mêmes choses quand on fait du manga, du comics ou de la BD franco-belge, le webtoon, c'est un format à part entière qu'il faut vraiment s'approprier complètement et dont il faut jouer. C'est un format qui permet de mettre de la musique quand on lit des épisodes, d'animer des cases. On peut faire des très longues cases très verticales dans lesquelles on est happé littéralement. On a une gestion du rythme. Tu parlais de gérer un peu la vitesse de lecture du lectorat, mais complètement, parce que si tu colles les cases les unes aux autres, l'épisode il va se lire très vite. C'est pratique pour des scènes d'action, des scènes un peu tendues, voilà. Mais à l'inverse, si tu veux canaliser, si tu veux un peu tempérer la lecture de ton lectorat, tu les espaces et puis ça permet d'instaurer du suspense ou de faire la chute d'une blague vraiment pile au bon moment. Et ça, c'est génial.
Oui, parce que dans le fond, je veux dire, on peut facilement suggérer l'acte de scroller, c'est quelque chose qui est physique. Donc, dans la page, il y a plein de détours, évidemment, pour mettre le rythme aussi quand on est dans un support traditionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la longueur et avec l'architecture, on a encore peut-être un peu plus de contrôle sur minimalement le temps que ça va durer pour faire monter vers la prochaine séquence, vers la prochaine action.
Ah, c'est ça, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu déjà dans les formats sur livre, parce qu'on peut mettre une action sur une page et la suite sur la page suivante. Et donc, en fait, quand tu ouvres la page, voilà, tu as une personne qui va te dire, voilà, et en fait, Maxime, je, et puis tu tournes la page, et puis je t'aime. Et là, tu as une explosion sur la page, elle est magnifique, voilà. Bah, tu peux le faire avec le webtoon, du coup, mais juste, ça se scrolle, et c'est quelque chose à prendre en main.
Et en même temps, dans l'autre élément qui est structurel, à mon sens, pour le webtoon, c'est la notion feuilleton. Dans le fond, c'est des saisons, dans le fond, et chaque saison est composée d'un ensemble de chapitres, et chaque chapitre arrive, dans le fond, essentiellement chaque semaine. Il faut garder le public en haleine, il faut que les gens, parce que l'offre webtoon, si on ne connaît pas le médium, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Donc, réussir à se démarquer, réussir à garder son lectorat, c'est pas évident. Et j'imagine que ça passe, dans un premier temps, avec justement une capacité d'amener les lecteurs à avoir envie de revenir, de choisir à nouveau ce webtoon-là pour la semaine suivante et éventuellement, dans le fond, de s'imprégner de la lecture et que ça devienne une partie de la routine.
Complètement. Là, je vais utiliser des anglicismes, mais on est très encouragé à faire des cliffhangers à la fin de tous les épisodes. Donc, vraiment, les terminer sur un gros suspense ou une énorme révélation. Pour que on sache que le lectorat, soit il va se dire ok, je paye pour avoir la suite en avance parce que c'est une possibilité, soit on sait que le lecteur va se dire ouais, bah la semaine prochaine je suis là, je suis au rendez-vous parce que j'ai besoin de la réponse, je veux savoir. Et on t'encourage à faire ça le plus possible. Si tu fais ça à tous tes épisodes, bah, c'est gagné. Bon, le lecteur, après, il est un peu stressé non-stop. Il arrive sur ta série, il est traumatisé parce qu'il sait qu'il va finir encore plus mal que l'épisode d'avant. Mais ça, c'est comme ça que ça marche, le webtoon. C'est que ça joue sur le côté addictif, sur le fait d'avoir toujours plus. Et la plateforme sait très bien ce qu'elle fait, hein, quand elle joue avec ça.
Et de ton côté, Kiri, il y a aussi une dynamique d'animation de communauté. Je veux dire, on parle d'une communauté de 100 000 lecteurs qui sont autour de la série. Donc, ce qui fait que, je disais quelque part, je pense qu'à chaque fois que tu lances un chapitre, ben, il y a une séance de débrief sur Instagram. Ouais. Il y a des éléments comme ça qui font que il y a un lien de proximité avec tes lecteurs lectrices.
C'est ça. Bah, en fait, comme le webtoon vient de Corée du Sud, il y a ce truc où les webtoons qui fonctionnent le mieux, du coup, sont coréens et ou américains. Et en fait, quand t'arrives, t'es une petite autrice française, comme ça, tu fais bonjour, je vais vous faire un truc. Le style, il a rien à voir avec ce qu'on voit en Corée et aux USA. Et puis, en fait, on va parler d'autres sujets. si tu veux fédérer ou unir ton lectorat, bah, t'es obligé d'être hyper présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est un truc un peu en plus par rapport au webtoon étranger, où l'auteur ou l'autrice ne peut pas créer ce lien si intimiste avec son lectorat, parce que bah, y a la barrière de la langue déjà, et puis on n'a pas les mêmes références, voilà. Là, avec Mon vœu le plus sincère, c'est une comédie dramatique. Le côté comédie, je l'anime assez souvent avec des références culturelles qui sont accessibles aux francophones et ou aux personnes sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, ça, t'as cette proximité qui peut se créer avec le lectorat parce que vous rigolez aux mêmes choses et que c'est, vous le savez. Un Coréen ne rigolera pas à la blague parce qu'il sait pas qui est telle personne, machin. Il y a une scène où il y a Jean-Pierre Foucault qui est dans les nuages, qui est un animateur de télé française très très connu. Bah, je sais que la blague ne fera pas rire un Coréen parce qu'il comprendra pas qui c'est, quoi.
Oui, il va savoir que c'est une personnalité.
C'est ça.
Il va
voilà.
savoir qu'il y a une référence.
Mais... Exactement. Mais la référence sera obscure, quoi. Il se dira bon, bah d'accord, ok.
C'est l'avantage, en fait, c'est de dire, bon, OK, j'assume à plein, moi, je suis sur Webtoon France, mon public est français. Éventuellement, c'est le genre de truc que si l'appel de la Corée vient pour adapter Mon vœu le plus sincère, mais c'est le genre de choses qui, de toute façon, devraient être adaptées pour avoir un ancrage régional aussi de leur côté, puis cette résonance-là.
C'est ça. Voilà, c'est pas les traductions les plus simples, hein, les traductions de comédie. Moi, je sais qu'à un moment donné, c'était vite fait en réflexion de traduire ou pas. J'étais surprise quand on m'en a parlé, parce que je me suis dit, bah, non, mais enfin, traduisez une romance, traduisez quelque chose qui fait de l'action, traduisez pas une comédie, parce que tu peux traduire une blague, c'est extrêmement dur, ça demande tellement plus de travail que de traduire autre chose, quoi.
Et d'un autre côté, le choix de la comédie permet, parce que c'est l'autre élément, j'ai l'impression, Kiri, que tu utilises pour amener le lecteur, semaine après semaine, à suivre un peu cette série-là, c'est d'avoir des personnages qui sont forts, des personnages avec lesquels j'ai l'impression que les lecteurs, lectrices ont envie de devenir amis avec eux, essentiellement. Donc, on travaille beaucoup sur les personnalités, puis sur des personnalités qui sont, somme toute, généralement assez positives aussi.
C'est ça. Ben, en fait, ce que j'aime bien faire avec cette série, c'est travailler avec deux types de personnages. Il y a les humains, donc qui sont très proches de nous, qui ont nos références, qui sont humains, avec des défauts humains, des qualités humaines. Voilà. Ben, ça peut être des gens avec qui on est amis. Et c'est comme ça que je les ai créés. C'est parce que ça pourrait être des gens avec qui, moi, je serais amie. L'autre type de personnage, ça va être tous ceux qui viennent du monde des génies, parce que ça reste l'histoire de base, une humaine qui rencontre un génie. Et en fait, bah, ces personnages-là me permettent, parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la réalité, de les faire parfois plus haut en couleur ou d'exacerber des qualités et des défauts qui n'ont pas possibilité d'exister chez nous. On a une génie qui s'appelle Teresa, elle est obnubilée par la guerre, mais c'est pas quelqu'un qui veut du mal aux gens, c'est juste qu'elle adore le concept, et c'est quelque chose que, enfin les guerres médiévales j'entends, pas les actuelles, parce qu'il y a ce côté guerrier et glorieux de l'époque qui voilà, elle se rappelle avec nostalgie, et t'as tous les humains qui sont un peu choqués, en mode mais non, mais enfin Teresa c'est horrible ce que tu dis, mais ça rajoute en fait du comique que j'aurais pas pu mettre avec des personnages qui sont que ancrés dans la réalité, et voilà, et je pense que c'est une des forces de la série, c'est la confrontation entre ces deux univers qui n'ont rien à faire ensemble normalement.
Exact, et qui viennent un peu avec un a priori qui est d'ailleurs en fait, parce qu'on les premières pages cognent, je veux dire, le premier que tu parlais du côté comique, ben, l'argument de départ de Mon vœu le plus sincère, c'est donc votre héroïne qui rencontre un génie et qui le génie lui dit ben, fais un vœu, elle fait son vœu, puis finalement ben, c'est, ton vœu est nul, réfléchis, pense-y à deux fois, si tu travailles tu vas réussir à le faire ce vœu-là, donc trouve-en un autre. Donc ça donne le ton aussi. Évidemment, d'un côté, le ton comique, parce qu'on s'attendrait à ce que le vœu soit exaucé, c'est le cas, donc déjà tu nous prends contre-pied. On comprend cette ambiance-là, mais en parallèle, ben, ça met justement en place que ces deux mondes-là vont clasher jusqu'à temps que y ait le vœu le plus sincère, dans le fond, qui finisse par réussir à émerger, peut-être.
Peut-être, mais c'est ça. Et l'autre truc qui est important pour moi, en tout cas, que j'ai pu mettre en place avec cette première scène-là, c'est que du coup, on a directement une mise en avant de un peu de la personnalité de Prince, le génie, parce que s'il le refuse, ce vœu, c'est parce que, comme tu l'as dit, elle peut y arriver toute seule. Donc c'est pas un génie piégeant qu'on retrouve parfois, qui va jouer sur les mots ou qui va être en mode ok, bah j'exauce ce vœu, tant pis pour toi. Non, il essaye vraiment de l'aider à trouver quelque chose de dont elle a vraiment besoin. Et c'était le deuxième code que j'ai voulu casser, c'est de me dire ok, les génies qui piègent, les génies comme ça, un peu malhonnêtes, on en a vu assez. Là, on part sur quelqu'un qui est naïf. Qui apprécie franchement son métier, parce que c'est pas sa nature. Génie, c'est sa nature, mais exauceur de vœux, c'est son métier, parce qu'on va découvrir d'autres génies qui font d'autres trucs. Et voilà, lui, il se bat pour aider les humains avec lesquels il travaille.
Et tranquillement, mais il y a des éléments de suspense, des portes qu'on ouvre dans les épisodes. J'imagine que ça devient aussi essentiel, ne serait-ce que ben, sur la nature des génies. Par exemple, le prince, vous lui couvrez les yeux, donc c'est clair que la question qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous, dans un contexte où les yeux sont le miroir de l'âme et le reste. Donc, des petites portes comme ça qu'on ouvre, on ne sait pas exactement quand est-ce que vous allez refermer, mais ça incite peut-être à suivre un peu aussi la série, d'avoir ces petits suspens-là ou ces gros suspens-là, dans le fond.
C'est ça. Et alors, une des raisons pour lesquelles j'avais caché le visage de Prince à l'époque, au tout début, quand je n'étais pas encore édité, mais voilà, les premières ébauches, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais contente d'avoir un génie, c'est que je débutais un peu. Donc, les jambes d'hommes, je ne savais pas très bien les dessiner, et les visages masculins, je ne les maîtrisais pas non plus beaucoup. Donc là, c'était un peu une facilité. Avec le temps, bien sûr, je me suis dit, bon, écoute, si tu signes un contrat, sois professionnel, voilà. Et en fait, tu as parlé des yeux qui sont les miroirs de l'âme, et oui, c'est exactement ça, parce que après, quand on évolue dans l'histoire, sans spoiler, bien sûr, mais on se doute qu'à un moment donné, les yeux de Prince, on les verra, et des autres génies aussi, c'est qu'en fait, je fais en sorte que cela arrive que lorsque le génie en question s'ouvre un peu et qu'on commence à le découvrir un peu plus. Prince, au départ, il a ce voile, il s'ouvre un peu, on le découvre, ensuite il a juste des lunettes qui sont opaques où on ne voit pas du coup ses yeux, donc ça garde le mystère, mais malgré tout, il n'a plus ce voile sur le visage complètement. Et donc on en apprend plus sur lui, voilà, il y a ce côté, on laisse tomber le masque pour voir un peu qui il y a derrière, et au fil du temps, plus on en apprend sur le génie, plus on le verra sans rien pour le dissimuler, quoi.
Et on se lance sur une première saison. On sait, je pense que mon vœu le plus sincère, c'est 3 saisons qui sont prévues pour l'instant. Est-ce que, justement, ce type d'éléments-là, dans le fond, l'exemple des yeux en est un bon parce qu'on ne spoile pas trop. Il y a d'autres éléments aussi, entre autres avec l'héroïne qu'on découvre. Il y a des flashbacks et des éléments. Donc, il y a quand même plusieurs dimensions un peu là-dedans, le monde des génies aussi. Mais prenons ça comme exemple. Dans le fond, est-ce qu'on a un mapping clair de comment on va évoluer sur la première saison? Qu'est-ce qui va être amené vers la deuxième? Ou est-ce que, dans le fond, il y a une partie un peu d'improvisation, de spontanéité, où on se dit, ben, OK, ça, c'est intéressant. On se met une note à côté en disant, ben, OK, je viens d'ouvrir cette porte-là. Éventuellement, il va falloir que je le développe, que je referme. Donc, comment un peu la dynamique de travail? Puis à quel point, dans le fond, tu sais exactement où tu t'en vas versus... Il y a aussi la dynamique de la création, il y a la dynamique de la rétroaction avec la communauté qui, j'imagine, t'amène aussi à te réajuster constamment. Donc, nécessairement, j'imagine que de semaine en semaine, il y a aussi une part, je dirais pas d'improvisation, mais d'ajustement, à la limite.
Mais alors, complètement, ma réponse à tes questions, ça va être oui à tout. En fait, il y a ce qu'il faut pour tenir une histoire d'un point A à un point B, c'est un squelette scénaristique. En fonction des auteurs, ce squelette, il est plus ou moins rigide, plus ou moins complet, et voilà, il y a des gens qui ont besoin de travailler avec... lorsqu'ils se lancent dans l'histoire, dans les storyboards de leurs épisodes, en fait, ils ont déjà écrit leur saison entière avec un résumé épisode par épisode, voilà. Avec mon éditeur, il a bien compris que ça ne servait à rien que je fasse ça, parce qu'au bout de 3 épisodes, changer la suite de la saison, et voilà. Il y avait toujours les éléments clés, mais ils n'étaient plus liés pareil, et puis voilà. Donc il m'a dit, ok, on travaille autrement, si tu me proposes une technique de taf, on le fait. Il m'a d'ailleurs pas dit ça, c'est moi qui l'ai imposé. Mais en gros, je lui ai proposé de lui envoyer une très longue liste de tous les éléments qu'il allait avoir dans la saison. La saison 2 notamment, je m'étais vraiment bien organisée. Et je lui ai dit, voilà, cette saison a fait 50 épisodes, donc on va la diviser en 5 arcs de 10 épisodes. Et dans chaque arc, je vais te montrer ce qu'il va y avoir. Et je les fiche pas, parce que comme tu le sais, parfois, je travaille un épisode et je me rends compte que ça n'a pas tant de sens que ça, que par la suite, il se passe l'élément que j'avais prévu. Donc, j'ai ce côté qui est très solide, parce que je sais qu'est-ce qui arrive à peu près quand, dans quel arc. Les arcs sont bloqués. Mais par contre, à l'intérieur de ces mêmes arcs, je me laisse une grosse fluidité, une grande liberté, parce que ça reste une comédie, et que, comédie dramatique, et que peu importe à quel point le scénario est sérieux, il y a des moments, je suis sur un storyboard, et je me dis, oh, je peux faire une blague sur tout l'épisode en fait là. Et si je peux faire la blague sur tout l'épisode, faut que je vérifie que dans mon planning, j'y ai prévu un épisode un petit peu de creux, et du coup ça me permet de décaler les choses. Bref, c'est vraiment toute une... c'est un peu un Tetris... dans lequel tu es obligé de te prévoir des endroits un peu flous pour te permettre ces réajustements en fonction de ce que toi tu fais quand tu bosses ton storyboard et des attentes du lectorat aussi qui parfois te surprennent un peu. Ils vont s'attacher énormément à un personnage et tu vas te dire, bon, je vais peut-être faire un épisode un peu plus axé sur lui à un moment donné, ça leur fera plaisir. Et surtout, si le lectorat apprécie autant ce personnage, c'est qu'il y a une raison que moi j'ai pas vue. C'est pas tant une question de satisfaire le lectorat coûte que coûte, mais plus une question de l'écouter et comprendre pourquoi certains sujets reviennent plus que d'autres dans leur retour. et du coup se questionner sur notre vision personnelle aussi des choses.
Oui, ben ça, j'imagine quand il y a une dichotomie où il y avait un personnage que ben, toi tu avais mis là parce que tu avais besoin de ce personnage-là, de cette rétrogradation à ce moment-là, puis ça manquait, finalement le public s'est attaché, le public a aimé. Comment je fais aussi pour pourquoi, comme tu dis, ou dans d'autres cas, ben c'est toi aussi, j'imagine, qui t'attache particulièrement à un personnage qui dit ben ah, j'ai envie de le ramener, il me semble qu'il sert à quelque chose, ou même à l'inverse, où tu commences à construire une séquence et tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose pour servir d'un peu de case de résonance, de contre-pied, de contrepoids à une certaine situation. Donc il y a des éléments, j'imagine, qui viennent un peu de la nécessité, mais qui arrivent peut-être un peu plus tard dans le processus.
C'est ça. Typiquement, il y a un personnage qui est le préféré de la majorité du lectorat, qui s'appelle Oxlove, qui lui est arrivé comme une... Enfin, c'était la petite cerise sur le gâteau. Je veux, bon, voilà, je vous mets un génie, il est super beau. C'est le contrôleur, il vient juste vérifier que Prince fasse bien son travail. Voilà. Il n'était pas du tout censé avoir autant d'importance. Et en fait, c'est juste que quand j'ai vu l'attrait du lectorat par rapport au personnage, je l'ai vu sous un autre angle. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il est très exploitable. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Qu'est-ce qu'il a en lui? Pourquoi est-ce que ça, pourquoi il marche si bien avec l'héroïne? Et alors, je tiens à préciser que je ne travaille pas avec les triangles amoureux, je n'aime pas trop ça. Et là, en fait, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire entre eux qui ne fait pas de triangle, qui ne le questionne pas et tout. Et en fait, tout de suite, une relation un peu plus, sans spoiler, un peu plus père-fille, en fait, s'est installée, parce que lui est très attaché aux humains, mais d'une manière paternelle, et qu'elle, elle aurait bien voulu avoir quelqu'un dans sa famille d'aussi protecteur et aimant. Et du coup, voilà, il y a toute cette dynamique qui s'est installée, et c'est pas parce que le lectorat l'a voulu, parce que je les ai surpris avec cette dynamique d'ailleurs, mais juste parce que j'ai vu autant de regards posés sur lui, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce personnage qui attire autant les regards, quoi? Est-ce que j'ai fait une erreur en le mettant trop en avant ou quoi? Et je me suis dit, non, c'était pas une erreur, parce que moi je l'aime bien, mais pourquoi je l'aime bien? Et bref, tu te forces vraiment à rentrer en réflexion, ça dure super longtemps, mais à la fin, tu fais quelque chose que t'aimes bien, quoi.
Oui, puis de trouver, comme tu dis, dans le fond, la solution qui n'est pas nécessairement la solution facile, entre guillemets, de dire, OK, un triangle amoureux, merci, on exploite ça, en comédie romantique, c'est justifié, ça aurait pu l'être, mais d'amener peut-être un peu plus loin, puis de respecter le message que tu donnais d'entrée de jeu à ta série aussi, où tu disais, ben oui, vous pensez à des archétypes, mais on va jouer autour, on n'ira pas directement à fond dans l'archétype. Au contraire, dans le fond, on va s'amuser avec ça.
C'est ça. Bah, plus tu surprends ton lectorat, surtout dans le webtoon, plus tu le gardes avec toi. Parce que bah, qui dit plus de surprises dit plus de cliffhanger. Et qui dit plus de cliffhanger dit plus de personnes qui ont hâte à la suite. Et voilà, tu entretiens la machine.
Et tu disais tantôt, dans le fond, c'est une saison de webtoon d'à peu près 50 épisodes. Ça sort une fois par semaine, donc on comprend que c'est 50 semaines par année, essentiellement. Et tu disais qu'à la saison 2, tu avais réussi peut-être un peu mieux de t'organiser. À un moment donné, je suis tombé sur des heures où des gens me parlaient de semaines de 80 heures, de semaines de 60 heures de travail, juste pour la production. Ça exclut l'animation de communauté et le reste. On est dans un rythme comme ça de ton côté. Je veux dire, tu cours le marathon présentement, là.
Oui, et ben d'ailleurs, très belle image, hein, parce que, quand tu parles de marathon, quand je parle parfois avec des nouveaux auteurs et qui me demandent, voilà, c'est quoi ton conseil, je leur parle toujours justement de marathon en leur disant, si tu dois courir un marathon toutes les semaines, bah, tu n'y vas pas sans préparation. Tu commences déjà petit en te disant, bon, bah, cette semaine, je cours 2 km. Et puis la semaine prochaine, je cours 3 km. Et puis voilà, puis tu grandis, puis tu fais tes étirements, tu travailles ta foulée, voilà. Dans le webtoon, c'est exactement pareil. Quand j'ai commencé mon Veuille plus sincère, le concept, il était super simple. C'est, voilà, c'est une jeune fille, jeune femme, qui rencontre un génie. Le génie, il dit non, ton vœu, il est nul. Et voilà. Le pitch, il est super simple. Aujourd'hui, on arrive dans la saison 3, il s'est passé plein de trucs. Il a complètement gagné en complexité. Mais parce que c'est un marathon. Si tu commences avec cette complexité dès le départ, tu vas te casser la figure. Toi, tu vas être épuisé. Ça sert à rien de te lancer comme ça. Et là, je parle de complexité scénaristique, mais je parle aussi de complexité de graphisme. Où au début, mes épisodes, ils étaient très simples. Et aujourd'hui, maintenant, parce que parfois, il y a des scènes d'action et tout, j'ai beaucoup plus retravaillé mes éclairages, mes lumières, mon anatomie, mes effets spéciaux. Voilà. Et une fois de plus, tu commences avec ça, tu t'épuises, tu tiens pas la route. Donc il faut vraiment voir ça comme un marathon, comme une préparation de marathon. Si tu veux être capable d'en courir un toutes les semaines, bah, tes premières semaines, tu les fais beaucoup plus calmes, avec un scénario simple, une idée de base simple mais percutante, des dessins qui sont à ta portée à ce moment-là et qui te permettent de travailler un épisode de 60 à 80 heures par semaine, quoi.
Oui, puis en fait, puis de commencer, mais comme tu dis, c'est simple et c'est centré sur peut-être aussi tes forces ou des séquences que tu sais que tu es capable de rendre, dans ce cas-ci, c'est un dialogue, c'est de créer une proximité entre des personnages. Donc, on mise un peu là-dessus dans une séquence qui est peut-être un peu plus intime, puis après ça, tranquillement, on grandit, tranquillement, on développe étapes, on enrichit l'univers, on sort de l'appartement, on s'en va vers le travail, on s'en va vers
Exactement,
la ville.
Ouais.
Donc on progresse un peu de cette façon-là aussi.
C'est ça. Quand j'ai terminé ma saison 1, la saison 1, elle se termine sur une sorte de gros final quand même, où j'ai pu mettre pas mal d'action. Il y avait beaucoup de sentiments, ça heurtait beaucoup de gens. Moi, je me rappelle la fin de ma saison 1, elle a été. J'ai reçu des messages vraiment sur les réseaux sociaux en mode mais comment t'as pu faire ça et tout. Des gens très satisfaits de leur lecture, hein. Mais voilà. Et en fait, quand j'ai terminé cette saison-là, quand j'ai fait ce final de saison, j'ai pris du recul où je me suis dit bah maintenant que j'ai fait ça, en fait, je peux tout faire. Je dis pas que je peux tout faire bien, mais je me suis dit si j'ai pu dessiner ces scènes-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'en faire des aussi compliquées autant que je veux ? La fatigue. mais en fait, voilà, il y a eu ce déclic qui est passé à un moment où je me suis dit, j'ai plus besoin de me restreindre. Ça y est, c'est bon. Si je veux faire cette scène qui est hyper loufoque d'un combat avec des sucres d'orge avec du feu derrière parce qu'il y a les télés et tout et qu'ils sont en personnage de Noël, si je veux le faire, je peux le faire. Voilà, ça va me prendre plus de temps, si je vais transpirer dessus, il y aura des cases qui seront moins jolies, mais je peux le faire. Et au début, quand j'ai commencé ma série, je le pensais pas. Voilà. Et ça, ce déclic-là, il fait du bien à la créativité quand tu te dis j'ai plus de limites maintenant.
Oui, puis j'imagine qu'à la longue, on finit par faire des trucs parce que là, tu n'étais plus à la première saison, donc le médium, tu le connais, tu l'as appréhendé. J'imagine que, en fait, parce que je voyais dans la version livre, enfin, on parle de gens qui sont venus pour la couleur, pour des coups de pouce, dans le fond, parce qu'à un moment donné, j'imagine, on lève la main, on dit, ben là, ça marche pas, je me suis mal organisé. On appelle des renforts. Et ces apprentissages-là, ben, pour la saison 2, justement, là, la préparation est cadrée, tout est bien organisé. À saison 3, tu es en pleine maîtrise de tes choses. Donc, il y a, j'imagine, des réflexes aussi qui se créent. Par exemple, de dire, bon, OK, je me fais un élément de décor, je le mets de côté. Peut-être que j'aurai besoin de les récupérer si
exactement.
Je manque de temps, des choses comme ça.
Oui, c'est exactement ça. Une meilleure organisation sur tous les points. J'ai appris à utiliser, quand même, 2 ans après, les raccourcis clavier qui permettent de gagner un temps incroyable sur la colo. Ou du coup, plutôt que de faire une couleur par une couleur, je fais 2 couleurs par 2 couleurs. C'est bête, hein, mais en fait, bah, ça diminue beaucoup le temps. Pareil, en fait, c'est des outils. Plus tu apprends à maîtriser tes outils, plus tu les maîtrises, enfin, tu les utilises vite. Et comme chaque minute compte parce que bah, tu es sur une très grosse durée pour un épisode, tu lésines pas quoi. Tu te dis bon, si j'ai trouvé ce truc là qui me fait gagner 10 secondes par case, je l'utilise tout le temps et c'est ce qu'on fait. Tu as parlé des décors, c'est très juste. C'est déjà quelque chose que je faisais durant ma première saison parce que j'avais capté que le lectorat en fait il s'en fiche du décor qu'il y a derrière. Alors, si c'est beau, il s'en fiche, si c'est moche, il le remarque. Ça c'est perturbant, enfin c'est un peu frustrant mais bon. En fait le décor il est pas là pour émerveiller les yeux, il est là juste pour donner un contexte, dans la très grande majorité des cases, pas toutes. Ce qui fait qu'à un moment donné, ton décor t'a fait un plan avec un mur derrière un personnage, ce mur là tu le gardes et sur les cases d'après tu le floutes parce que tu t'en fiches, t'as pas besoin de refaire le mur non-stop. Tout ce que tu veux c'est de voir, lire la bulle du personnage, savoir ce qu'il dit, savoir ce qu'il fait. Voilà, elle est pas là pour, le décor n'est pas là pour prendre le dessus, mais pour accompagner la case, lui donner un contexte. Et donc dans ce moment-là, faut pas avoir peur de réutiliser des décors qui sont déjà faits. Tu peux utiliser des décors 3D pour faire gagner du temps aussi. Moi la 3D, je trouve ça extrêmement moche, donc du coup je l'ai retravaillé énormément. Mais retravailler pendant un long moment un décor 3D, ce sera toujours plus rapide que de dessiner toi-même ta citadelle et ton royaume de génie machin. Voilà.
Évidemment, on parle beaucoup de la version Webtoon, dans le fond du comic, parce que Webtoon, c'est une plateforme, c'est une application, donc via Webtoon France, qu'on peut trouver donc les épisodes où on est rendu, je pense, c'est 82e au total, saison 3.
87.
87. Donc ça avance assez rapidement, évidemment, donc on peut rattraper de ce côté-là. Et à un moment donné, dans le fond, on est en 2021, 2022, à Japan Expo, donc du côté européen, et il y a la gang de Kotoon qui vient t'aborder pour dire, ben, est-ce que tu voudrais amener ton webtoon en livre.
Ouais, alors là, c'était terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille au soir, dans la chambre d'hôtel, j'avais une collègue qui me disait, oui, toi, l'année prochaine, t'auras une version papier. Et je me suis dit, n'importe quoi. Alors, c'est très flatteur, hein, merci, mais non. Elle me dit, si, là, Kurokawa, ils ont un nouveau label, ça s'appelle Kotoon, ils font Let's Play, là, toi, t'irais trop bien là-bas. Je me suis dit, mais t'es satellisé, enfin, c'est n'importe quoi. Une version papier peut-être, mais pas chez Curo, c'est pas possible. Et quand le lendemain, j'ai vu l'équipe arriver sur mon stand, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Partez, s'il vous plaît, j'ai peur. Et en fait, ils sont venus me voir et je me suis dit, bon, peut-être qu'ils cherchent quelqu'un d'autre et tout. Et là, non, ils me disent, ah, Kiri, on te cherche depuis tout à l'heure et tout. Voilà, alors on se présente. Nous, on est chez Kurokawa, on a un nouveau label qui s'appelle Kotoon et on aimerait savoir, nous, on aime bien ta série, est-ce que tu voudrais un truc? Et toi, t'assistes à ça, tu les vois parler, et dans ta tête, c'est en mode, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on vient pas de me dire ça, j'ai rêvé. Et là, du coup, je dis, bah oui, ça me dirait bien d'avoir une version papier, bien sûr, personne dirait non. Et en fait, après ça, ça s'est organisé très vite, on s'est revus dans les locaux à Paris, on a pu parler de ce qu'on attendait chacun, l'un et l'autre, d'une collaboration ensemble, et c'est, j'ai zéro regret sur ça, parce que je pense que c'est la plus belle expérience, dans le monde de l'expérience d'avoir une version papier de Webtoon. J'aurais jamais pu rêver mieux que de le faire avec l'équipe Kotoon, qui est une équipe incroyable.
Et qui a pris en charge, parce qu'on parlait au départ justement de la structure qui est en case versus en planche. Donc là, subitement, il faut amener ton comic en planche. Donc c'est eux qui ont un peu pris en charge l'agencement avec ton approbation, dans le fond, essentiellement.
C'est ça, ouais. En fait, ils m'ont demandé si je voulais m'en occuper et moi...
On parlait de tes semaines tantôt, justement.
C'est ça, voilà. J'avais une saison 3 préparée, enfin une saison 2, j'étais en plein dedans, donc je me suis dit, bon, non, vous allez le faire. Hein. Et en fait, c'est les studios Macma qui s'en sont occupés et ils ont fait un excellent travail parce que je trouve qu'ils ont su garder le dynamisme des scènes comiques et qui partent dans tous les sens, tout en restant sobre sur les scènes qui sont censées l'être. Et du coup, j'ai trouvé que le studio a fait un excellent travail. Il y avait aussi du coup Kotoon qui s'occupait un peu de les guider parfois en disant « Non, cette scène-là, elle n'est pas très bien gérée, il y a plus ça comme émotion, mettez cette case-là en avant. » Et moi, j'ai pu regarder aussi les premières épreuves pour faire un dernier retour. Et bon, ça va, je suis pas très embêtante, on va dire. Il y avait genre peut-être une bulle mal calibrée. Bon, bah mettez-la plutôt là, voilà. c'est pas très compliqué. Et du coup, moi, ce dont je me suis occupée pour ces livres, c'est de redessiner des cases qui étaient vraiment trop mauvaises, ou alors un manque de cohérence en termes de plan. Le mot est sur ma langue, mais la perspective, voilà. Corriger des problèmes de perspective sur des trucs... Parce que bah, même si je sais que c'est bien de voir l'évolution d'un artiste, si tu publies ton premier livre et que t'en es pas fier, t'as du mal à le signer avec fierté, quoi. Et donc du coup, j'ai retravaillé un petit peu tous ces trucs-là. Et quand j'ai vu le travail que Macma et Kotoon avaient fait sur ce livre, j'ai redécouvert mon travail et je l'ai aimé. Et ça, pour une artiste qui a un gros syndrome de l'imposteur, ça, c'est énorme.
Oui, puis j'imagine que c'est un plaisir, en fait, parce que reste qu'on est encore dans des sociétés de papier. Donc, le webtoon, il y a toujours une dynamique un peu éphémère, ça reste sur une plateforme. Donc, le papier ancre peut-être un peu l'ouvrage, lui donne un élément concret supplémentaire, si on peut dire. Et j'imagine te permet d'aller chercher de nouveaux lecteurs, lectrices, donc ceux qui ne sont pas nécessairement attirés par la plateforme web, par l'appli, mais peuvent trouver aussi en version papier. Tu te retrouves en librairie aussi, donc ça augmente peut-être un peu la portée de ton travail.
Bah, c'est ça. Moi, quand on me l'a proposé, la version papier, je ne l'ai pas senti comme un aboutissement, parce que bah, quand tu es à fond sur ce que tu fais de base, tu ne te dis pas que c'est pas suffisant et que ton travail sera abouti que lorsque tu auras une version papier. C'est deux choses différentes. Je me suis dit, c'est un plus et c'est un énorme plus pour le coup, et j'étais vraiment heureuse. Mais par contre, ce que moi j'ai pu constater, c'est que chez certaines personnes, mon travail n'a commencé à avoir de la valeur que parce que j'allais avoir une version papier. Genre, quand on me dit félicitations, ça y est, t'es une vraie autrice, excuse-moi,
j'avais 6 millions.
C'est la Comédie Française numéro 1, j'ai 100 000 abonnés, 6 millions de lectures, je travaille 80 heures par semaine depuis 3 ans. Enfin, ça fait un moment que je suis autrice maintenant, quoi. C'est pas parce que juste c'est imprimé que ça y est, ça existe. Ça existe depuis 3 ans maintenant. Ça m'a pas vexée, parce que je sais très bien aussi comment certaines personnes sont attachées au côté tangible d'un objet. Genre, je sais, il n'y a pas de problème. Mais ça me l'a fait remarquer et je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que peut-être que je vais gagner un peu en notoriété, peut-être pas, mais en légitimité aux yeux de certaines personnes. Ça y est, je suis autrice de BD. Je suis une vraie autrice parce que j'ai un livre. Voilà.
Alors, ben, deux façons donc de découvrir ton travail pour ceux qui ne te connaissaient pas, donc sur le web, sur l'appli, sur Webtoon France, et avec l'adaptation livre, donc le tome 1, la saison 1, donc qui est disponible du côté de Kotoon, et les autres saisons, on imagine, qui vont suivre également.
Tout à fait.
Kiri, merci beaucoup.
Mais merci à toi, je t'en prie.
CKRL.
Dans le cadre du Radioton 2024 de CKRL,
la tradition se poursuit. Une édition toute spéciale de Rue d'Auteuil, en entretien et en prestation. Cette année, votre référence en blues à Québec vous propose le spectacle intime d'une véritable légende, le pianiste Guy Cardinal. Ici Jacques Dulac. Joignez-vous à moi le vendredi 26 avril dès 20h30 sur les ondes de CKRL pour profiter de cette soirée exceptionnelle. Et rendez-vous sur lepointdevente.com pour vous procurer des billets VIP afin d'assister au concert de Guy Cardinal. Et ainsi, contribuer au financement de votre radio favorite.
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society mené par Joshua Abrams le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Du 26 au 28 avril, c'est le retour du Radiothon de CKRL. Pendant cette fin de semaine festive, nous vous offrirons des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios. C'est aussi le bon moment pour renouveler votre adhésion, miser sur une sélection de 100 lots ou faire un don. Le Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires de premier plan suivants. La Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec, la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Le Radiothon, soyez-y.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le jazz vocal d'Andrea Superstein.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'artiste canadienne qui brille par sa voix riche et ses mélodies accrocheuses célèbre la parentalité avec son nouveau spectacle « Oh Mother ». Le 4 mai, au Palais Montcalm, laissez-vous bercer par les chansons à la fois originales et accessibles d'Andrea Superstein.
Participez à l'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radiothon de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret. Du 26 au 28 avril, ne manquez pas ça.
Ce Radiothon vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec.
On est maintenant en compagnie d'Alex Lévesque, auteur de Dessine bandée. Alex, bonjour.
Salut, ça va?
Ça va très bien. On profite du Salon du livre du Festival Québec BD pour te croiser, de passage à Québec, évidemment, pour parler de ce projet-là. Un projet qui passe vers le livre, mais un projet qui était déjà dans le fil du temps depuis 2016. Ça fait donc 8 ans que tu parles de Dessine bandée à différents degrés. Et au départ, en fait, ça avait commencé peut-être même un peu avant, parce que tu avais eu des projets, je pense, d'animation 2D sur YouTube avant de décider d'aller vers des strips, d'aller vers des bandes dessinées, dans le fond.
Oui, exact. À août 2016, je pense, c'est là que je me suis comme vraiment lancé le défi de faire comme... OK, là, je vais le faire, mon webcomic. C'est comme si c'était comme dans ma tête pendant un petit bout de faire comme... Ah, je pense que je serais capable, je dessine. J'aimerais ça comme apprendre à écrire des jokes, là, tu sais. Fait que là, c'était comme le moment où j'étais comme... Ah, ben, je me lance, tu sais. Fait que je me lance le défi de faire comme une BD par jour de semaine. Là. Mais comme avant ça, ouais, c'est ça, j'avais fait des petits strips par-ci, par-là... l'animation 2D, des trucs comme ça. Tu sais.
L'intérêt était là, tu connaissais un peu le webcomic aussi, donc t'avais un appétit pour ce type de médium-là spécifiquement?
Surtout, c'est comme... je pense que ça arrivait vraiment dans le bon moment, dans l'histoire des réseaux sociaux, on dirait. C'est comme... Il y a surtout comme un gars... Ben, je suis fan de webcomic de plusieurs... personne, mais il y a un gars qui s'appelle Extra Fabulous Comic, que lui, c'était comme, il a strip down au truc le plus simple, il dessinait avec un stylo sur une feuille, il prenait une photo de son strip avec son sel, puis il foutait ça sur Internet. C'est comme, ah ben là, ça, je suis capable de faire ça. Fait que là, on dirait que ça m'a donné le cue de, OK, t'as pas besoin d'avoir genre une tablette de fou, puis genre la technique, on dirait que c'est comme... Ah ben, si genre j'ai le goût de le faire, je pense que je serais capable, tu sais.
Oui, enfin, on ramène souvent à l'idée que, oui, tu peux savoir dessiner pour faire de la BD, mais c'est pas une obligation, dans le fond. Dans la mesure où si t'es capable d'avoir le sens de la narration, si t'es capable d'avoir le sens du punch, au bout du compte, tu peux faire quelque chose. Et dans ton cas, ben, j'imagine que ça aussi définit assez rapidement, tu dis « OK, je suis pas un pro du dessin ». Mais je suis capable peut-être d'avoir le sens du punch, ouais. Le sens de l'histoire. Donc, on pousse à fond ça. Puis, on essaie de trouver le dessin qui fit, qui cadre un peu avec ce que tu es capable de donner et ce que tu as besoin pour pousser la narration, pour pousser la blague.
Exact, exact. Puis aussi, quand tu penses à la longévité, de comme, OK, si je fais une BD par jour, il faut que ça soit pas si compliqué. Là. Fait que là, enlève les cheveux, enlève genre, les détails, enlève les ombres, puis OK, ça va être ça. Puis ça, je pense que je suis capable de reproduire ça facilement à chaque jour. Là.
Oui, puis même dans la reproduction à chaque jour, je veux dire, puis c'est visible dans le livre aussi. Dans le fond, on commence le jour 1, en fait, du moins c'est sur le webcomic, on regarde ce que tu fais aujourd'hui ou dans les dernières années, puis il y a quand même une grande évolution aussi, mm-hmm. même dans le style minimaliste. Tu as quand même réussi à le pousser, à te développer aussi dans ce style-là.
Ouais, exact. Ouais, j'ai comme passé aussi par plusieurs, tu sais, au début c'est ça, c'est photo avec mon sel, stylo. Après ça, tu sais, des crayons un peu plus faits pour la BD, un scanné avec mon imprimante. Après ça, là, j'ai passé à tablette graphique sur Photoshop. Puis après ça, Procreate sur mon iPad. Puis là, je suis sur Procreate depuis genre peut-être 5 ans là, tu sais. Fait que
évolution marquée parce que toi, tu avais envie de te donner plus de moyens, soit pour être efficace ou soit pour pousser un peu ton visuel, ou parce qu'à un moment donné, il y a tellement de monde qui te lise que tu as envie de pousser ça un peu plus loin pour répondre un peu à demande, aux attentes? Ou...
Ouais, mais je pense que c'est pour moi, là, comme je veux que ça soit la vision que j'ai dans ma tête. Puis je pense que comme à travers les années, justement, mon coup de crayon s'est amélioré, puis j'étais capable de faire des trucs qui se pouvaient plus rapidement. Puis... fait que là, on dirait que j'ai comme le style que j'ai toujours voulu, mettons, là, tu sais.
Puis, dans cette logique-là, dans le fond, donc, en 2016, tu décides de te lancer, tu le disais, une bande dessinée par jour. Donc, un exercice quand même assez intensif, mais rapidement, j'ai l'impression, en fait, que, tu sais, c'est comme... rapidement, ça a commencé à être connu, que rapidement, on a commencé à les voir passer aussi sur les réseaux sociaux et que rapidement, il y a des gens clés dans l'écosystème des médias sociaux et du vedettariat mmh. québécois et autres qui ont commencé à voir tes bandes dessinées, à les partager. Est-ce que, je veux dire, tu avais anticipé que ça irait quand même assez rapidement pour te faire une place dans le webcomic?
Pas en tout. Mais j'avais vraiment pas de but là, quand j'ai commencé. C'était juste... Un truc pour me désennuyer là, dans le fond, c'est que ben là faut que je fasse quelque chose là. Je fais rien de mes journées, fait que là, j'avais vraiment pas de but à long terme, mais ouais, c'est surprenant que ça allait comme fait boule de neige rapidement, puis c'était comme si le monde était comme ah c'est cool que ça existe cette affaire là, puis on dirait que ça c'était comme si ça manquait à, justement à l'écosystème des réseaux sociaux, puis fait que mais ouais, je me rappelle, tu sais, Arnaud Soli, il avait partagé, il y avait comme eu un article, puis c'était comme ah crime, là ça fait genre 2 semaines j'ai commencé à faire ça, je sais même pas qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que on dirait que ça aussi ça met de la pression de comme ok, ben là faut que j'essaye de keep up, puis de faire de quoi de bon là,
oui, t'sais. Parce que subitement puis rapidement il y avait des attentes, subitement rapidement tu te voyais circuler aussi là.
ouais c'est ça, mais il y avait de quoi de le fun aussi dans le poster à chaque jour, c'est que On dirait que c'est plus pardonnable de... Tu sais, t'en fais une, puis là, toute la journée... Ben, pas toute la journée, mais en tout cas, de la partie que tu travailles, t'es comme... T'essaies de trouver la meilleure joke que t'es capable, puis là... Ah... Ça, c'est pas la meilleure, mais ça va être ça. Puis là, t'es comme... Ah, ben, il y a toujours le lendemain, tu sais. On dirait que c'est comme... Dans la formule du volume, là, tu sais, on dirait qu'il y a comme plein d'enfants que... Ça, tu peux être en paix avec la création, en général. On dirait que c'est bénéfique.
Oui, puis dans le fond, il y a le côté éphémère du web, le côté éphémère des médias sociaux aussi. Je veux dire, c'est lancé, c'est rapidement vu, rapidement consommé. J'imagine que aussi, c'est pour ça qu'à un moment donné, on se dit, ben, ça serait le fun de faire un livre. On serait le temps de faire un livre parce que ça reste dans l'éphémère, veux pas, quand c'est sur le web. Puis de temps en temps, tu retombes sur quelque chose que tu as publié la semaine passée ou 10 ans avant.
Exact. Puis c'est aussi tough de les retrouver, là. Tu sais, si tu dis, hey, v'là 6 ans, j'ai vraiment ri une joke. Là, c'est comme, faut que tu scrolles pendant un crisse de bout, là, vu que c'est comme, j'ai 650 BD environ, là, tu sais, fait que le livre, là, c'est plus facile de scroller dedans, là. Mais ouais.
Puis le, dans le fond, le livre, tu disais, je pense que tu en as 150 BD dans le livre, tu en as 650 au total à ce jour. Donc, j'imagine qu'il a fallu faire une job d'épuration, puis dans ton cas, peut-être aussi une job de mémoire. Je veux dire, à force de faire des jokes à chaque jour, il y en a que tu te rappelles, que tu dis, OK, celle-là, me semble qu'il était vraiment drôle, mais toi aussi, il faut que tu les retrouves. Toi aussi, il faut que tu regardes, que tu prennes conscience aussi de tout ce que tu as fait, puis que tu les choisisses.
Oui, c'est ça. Puis c'est aussi imprégné beaucoup de. C'est cave qu'il y a de l'émotivité là-dedans aussi, que c'est comme là, je me rappelle de. Une idée que genre j'étais super content d'avoir eu une angle que j'étais comme ah c'est bien original puis tout ça puis là c'est comme ah est-ce que je suis biaisé par mon souvenir que j'étais fier tu sais puis là c'est pour ça que là travailler avec un éditeur c'est comme c'est parfait parce que Renaud il connaissait un peu mon œuvre tu sais mais c'est quand même il y avait plus un œil vierge tu sais fait que là de travailler avec lui c'était plus OK ça marche ou ça marche pas whatever tu sais fait que mais ouais mais tu sais règle générale, on dirait que je savais quand même intuitivement celui-là que c'est sûr qu'il allait dans le livre, celui-là que c'est sûr qu'il allait pas dans le livre. Puis là, après ça, c'est dans le milieu, qu'est-ce qui fait le cut, là, tu sais.
Oui, là, je comprends. C'est toujours cette étape-là, l'étape intermédiaire. Le bon, c'est facile. Mm-hmm. Le mauvais, c'est facile. Le défi, j'imagine, c'est de se faire des critères. Peut-être de variété aussi, peut-être de période côté graphiste, parce que j'ai vu dans le livre, t'as pas non plus retravaillé, t'es vieux, tu gardes un peu l'esprit d'origine.
Ouais, ben ça, je trouvais ça intéressant que ce soit pas en ordre chronologique, puis ça soit comme un pacing fait pour le livre, que ce soit comme, justement, ça soit le fun dans la lecture, puis ça soit fluide, puis que, justement, il n'y ait pas des répétitions de « Ah, ça, c'est le même sujet ou c'est la même joke ». Fait que, tu sais, le travail de pacing, c'était quand même tough parce que tu sais il y a des trucs qui sont similaires puis il faut tu sais pour que ça flow c'était un bon défi mais
oui parce que si toutes tes punches finissent par se ressembler aussi ou si tu mettons 3-4 punches de OK on prend le truc au sens littéral back à back ben maintenant il y a comme plus de surprise donc faut aussi que tu varies le style de joke
dans c'est ça mais varier aussi le style de dessin aussi ça c'était intéressant aussi de faire comme on dirait que tu pouvais visuellement voir le timeline de Dessin Demandé en le regardant, vu que là, il y a une BD que j'ai sortie en 2022, puis là, tu tournes la page 2017, puis là, tu vois un peu plus le clash de traits de crayon, puis on dirait que c'est comme... Tu vois plus l'ampleur du travail dans le livre quand tu le vis comme ça. Tu sais.
Puis tu disais tantôt que Dessin Demandé, c'était aussi un travail d'apprentissage ben, de la BD, mais j'imagine aussi du scénario, du strip. Et dans un contexte où tu as décidé de te professionnaliser là-dedans aussi, tu as fait l'École nationale de l'humour. Aujourd'hui, bien, tu travailles aussi sur de la rédaction de sketch, même Full Circle avec Club Soli.
Ouais, donc,
qu'on revient un peu là-dessus. Mais dans le fond, j'imagine que tu vois l'évolution visuelle, c'est celle qui frappe aux yeux initialement parce qu'il y a différents outils techniques d'approche. Mais d'un point de vue narratif aussi, j'imagine qu'avec l'expérience puis avec tout ce que tu fais à côté... Ben, ça vient aussi informer la manière dont tu abordes Dessin Demandé en 2022 versus en 2016.
Ouais, ben c'est l'expérience, c'est vraiment si tu travailles relentless, tu sais en humour puis t'écris le plus de jokes possible, ben c'est sûr que quand tu look back, ben tu vois une évolution, pis c'est ça qui est le fun aussi là, c'est que c'est ton instinct il s'aiguise puis t'es comme ah ben c'est aussi c'est l'humour, c'est des procédés humoristiques, puis c'est comme il y a peu de variétés de procédés humoristiques, puis c'est comme ça, c'est le squelette des jokes, tu sais, puis ça c'est on les voit pas, mais quand t'en as fait assez, tu comprends quand même ah ce procédé là, il est peut-être plus facile, tu sais, fait on dirait que c'est moins intéressant d'aller là, vu que comme ah on dirait que c'est comme il y a pas de c'est moins intéressant, tu sais, de faire comme ah ben ça ce procédé là tout le monde peut le faire mettons, mais comme avec de l'expérience, t'es comme, ben, je vais aller moins là, puis je vais aller plus ailleurs, tu sais.
Oui, puis j'imagine dans Variété de gags aussi, où tu dis, ben, OK, là, l'idée que j'ai, oui, ça peut fitter sur un 3, 4, 6 images, versus, ah non, telle idée, c'est peut-être plus un sketch, c'est peut-être plus quelque chose d'un peu plus long. Puis j'imagine qu'avec les années, puis avec les emplois, ben, c'est que là, t'as plus en plus aussi d'outils pour trouver la bonne formule pour la bonne joke, des jokes que t'aurais pensé, j'imagine, peut-être pour le strip, que finalement, non, ça va être bien mieux si c'est un sketch ou...
Ouais, ben exact. C'est encore là, c'est ton instinct qui s'aiguise, tu sais, comme... ben là, j'ai une vidéo que là, j'avais... qui a été nommée aux Oliviers, qui est absurde, qui s'appelle Dave le fluffeur de concierge, qui est comme un portrait sur, genre, le métier de fluffeur de concierge. Vous irez googler pour comprendre, mais bref, c'est juste complètement... fou. Mais ça, c'était une idée de BD au départ. Puis c'était comme, ah, ben c'est comme, j'ai l'impression que tu quoi là de plus que juste quatre cases, tu sais. Fait que j'ai comme mis l'idée de côté. Puis là, après ça, j'ai eu l'opportunité de faire un sketch qui était plus long, qui était plus comme, plus dans le jeu, plus dans l'interprétation, puis dans entrer dans cet univers-là. Puis ça valait la peine de garder cette idée-là, puis d'essayer de la développer ailleurs. T'sais. Fait que, ouais, je pense que je sais plus où ce que. De suivre plus les idées, puis faire comme, ah, c'est où que ça va, ça.
Et puis j'imagine que le fait d'avoir même. Parce que, tu sais, le strip, si on regarde un peu concrètement, ça reste hyper contraignant aussi. Mm-hmm. Un nombre ultra limité de cases pour placer ta situation, placer ton gag, placer son évolution. Fait que j'imagine que. Parce qu'on me dit toujours, en fait, faire court, c'est plus difficile que faire long, des fois, de mettre tout ce que tu as en tête versus bien, bien, bien choisir. Fait que j'imagine que ça donne aussi, comme apprentissage, un laboratoire, je dirais pas peut-être au plus dur, mais avec, disons, des grosses contraintes aussi de ce côté-là.
Mm-hmm. Non, mais clairement que faire rire rapidement, c'est vrai que c'est tough, là, mais c'est comme, tu apprends l'essence de la joke, là, tu sais. Ouais, des fois, c'est pas facile.
Oui, parce que, en fait, t'as le setup au départ, donc définir ta situation, c'est est-ce que t'as besoin d'une case, deux cases, après ça, t'as ton punch, oups, t'es déjà rendu à trois, si t'avais quatre en tête. Puis le quatrième, ce que je trouve bien dans dessin de bandé, c'est l'utilisation du quatrième. Dans le fond, le punch lui-même, des fois, arrive pas nécessairement non plus à la dernière case. Des fois, de le faire vivre avec un silence, avec un malaise, avec une réaction, mm-hmm. ça l'amplifie. Puis c'est cette case-là mouvante qui est pas dans le setup, qui est pas dans le punch. De savoir l'utiliser, puis de savoir le placer, de savoir utiliser le temps de silence, le temps d'arrêt, ouais. dans le fond.
Oui, c'est ça. Puis le silence, des fois, il arrive souvent à troisième case, tu sais, puis des fois à deuxième, puis c'est comme, ça permet comme de prendre un moment pour après ça que le punch soit comme plus percutant, tu sais. Mais ouais, aussi, des fois, le punch, c'est la réaction d'un personnage ou whatever. C'est juste essayer de voir qu'est-ce qui est le plus efficace, tu sais.
Est-ce que c'est pratiquement un jeu de remontage des fois où t'as pas l'idée claire, tu sais un peu où tu vas t'en aller, mais là t'expérimentes avec ton rythme? Ou d'autres fois, j'imagine, ça va être très rapide, ok, tu sais exactement, tu le fais, merci, bonsoir.
Ouais, c'est vraiment un ou l'autre. Là, c'est soit que j'ai le strip, j'ai le nombre de cases, comme tout cuit dans le bec, mon idée, comme ah, c'est ça, ou sinon c'est vraiment dur travail, puis il y en a qui étaient dans mes notes pendant genre des années, puis c'est comme, hey, je sais pas si je vais être capable de la faire, celle-là. Puis, mais aussi, c'est le fun comme puzzle. Souvent, tu sais, justement, le punch, t'as l'idée du punch, puis t'es comme, ah, mais comment je me rends là, tu sais. Fait que souvent, c'est de travailler à l'envers, de faire comme, ok, ça, je trouve ça drôle. Comment que je peux arriver là? C'est quoi la situation, tu sais?
En fait, tu pars, mettons, avec le départ, mettons, prenons un des gags, c'est la maison qui paye, mais tu sais, le mm-hmm. punch, c'est que c'est une maison qui a payé, c'est pas... Donc, on y va avec le sens strict, donc, t'as l'idée, mettons, de ce punch-là. Bon, OK, c'est quoi le setup? Comment je le rythme pour créer cette réaction-là? Puis là, c'est du reverse engineering un peu.
Exact. Puis encore là, l'image que moi, qui me fait rire, c'est la maison à côté, c'est la banquette qui fait son petit... salut comme si c'était comme un genre de boss de la mafia qui contrôle un peu le resto, tu sais. Puis aussi, il y a une pause dans ce BD-là, que c'est la troisième case, que c'est les deux personnages qui regardent hors champ. Puis là, quand t'es lecteur, t'es comme, ah, qu'est-ce qu'il y a? Puis après ça, t'as comme le punch qui est plus percutant parce que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe,
t'sais? Exact. Puis tu laisses tes personnages l'anticiper, donc tu laisses ton lecteur l'anticiper. Puis effectivement, si t'avais inversé juste les deux avec la réaction par après, ben peut-être mm-hmm. que ça serait venu trop vite. Peut-être que justement, il n'y aurait pas eu assez de build-up pour avoir l'effet de cette dernière case-là, dans le fond.
Oui, exact.
Puis avec tout ça, dans le fond, parce que là, tu te permets, j'ai du 3 cases, du 4 cases, du 6 cases, donc j'imagine qu'encore là, ça reste de la mécanique. Donc comme tu es sur le web, ben, la contrainte du nombre de cases, c'est toi qui décides aussi.
C'est moi qui décide, mais là, on dirait que c'est comme mon home base, mettons, c'est Instagram, parce que c'est comme la place la plus le fun pour consommer des strips, vu que tu peux faire comme une case, c'est une slide, puis après ça, tu fais juste slider ton doigt, puis t'as la deuxième case, troisième case, quatrième case, puis au final, tu peux juste faire 10 slides, tu sais, fait que j'ai pas tant fait plus que 9 cases, tu sais, fait que... Mais rendu là, c'est déjà trop, là, pour moi.
C'est clair que, tu sais, faut que tu aies du stock aussi pour faire vivre le... Faut que ça soit justifié. Mm-hmm. Parce que même j'imagine que tu es dans un contexte où ton lectorat va s'attendre à autour de 4. Donc déjà, quand tu l'amènes un peu au-delà, ben faut qu'il y ait des relances. Faut que tu sois un peu plus, entre guillemets, sûr de ton matériel.
Ouais. Mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression que le monde, à chaque fois qu'il y a une BD avec un nombre de cases pas possible, genre 9, qui est pas impossible, mais les gens sont comme « Oh shit, on est gâtés », tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi de... Quand tu as des fans qui aiment ton œuvre, on dirait que tu peux plus relaxer et faire comme « OK ». Genre, il y a du monde qui vont aimer ça coûte que coûte, tu sais.
Puis, à quel moment on a justement compris que ça devenait sérieux un peu, des scènes bandées? Est-ce que c'est avec Urbania qui, OK, dit, ben, on a un contrat de diffusion qui n'est pas sur tes médias sociaux à toi ou qui n'est pas en plein contrôle pour toi? Que ça devient un peu que ça ancre en disant, ben, OK, maintenant, ça devient quelque chose qui est, tu sais, un volet de mon parcours professionnel, si on peut dire, plutôt que juste un loisir que je fais qui, finalement, a pogné plus que ce que j'anticipais.
Ça a fait partie de ce truc-là. Mais je pense pas que... je pense pas que je le réalise non plus encore. Même aujourd'hui, 8 ans plus tard, comme si c'était comme de quoi... C'est encore comme de quoi que j'aime faire, puis j'associe pas ça à la carrière, mais oui. Mais je pense que de rencontrer le monde aussi, ça, c'est ça qui fait comme ah, c'est sérieux dans le fond, là. Le monde il lit ça, puis là, vu que ça fait longtemps, de faire comme hey, ça fait 7 ans que je suis, whatever, tu sais, c'est intense, là.
Oui, puis là, de voir en fait, parce que tu sais, nécessairement, dans toutes tes présences comme humoriste, ben il y a la mention des scènes bandées. Pour beaucoup, ben, la BD va ancrer l'idée, la perception que je me fais d'un spectacle d'Alex Lévesque, l'humoriste.
Ouais.
Donc, à quel point, justement, même ce style-là que tu t'es défini, définit aussi qui t'es comme humoriste sur scène?
On dirait que je l'ai souvent comme séparé, mettons, les deux, mais comme on dirait que de plus en plus, je suis comme, ah, ben, tu sais, ça vient du même cerveau. C'est sûr que c'est pas à mille lieues. Si t'aimes un, il y a des très bonnes chances que t'aimes l'autre, parce que j'ai l'impression que, tu sais, tous mes autres projets, le stand-up, les vidéos, peu importe, c'est comme... c'est mon cerveau, puis plus d'opportunités d'efficacité comique. T'sais. On dirait que, tu sais, les vidéos avec le montage, le jeu, tout ce qui est visuel puis sonore qu'il n'y aurait pas dans la BD, ben on dirait que c'est quelque chose qui rajoute à l'efficacité comique. Puis sur scène, il y a l'aspect que c'est vivant, puis des fois, il y a des moments d'impro, puis tout ça, mais tout part du même cerveau. Fait que... Puis j'ai aussi comme... T'sais, c'est sûr qu'il y a des jokes qui sont plus... Ah, c'est des liners, ça rappelle un peu l'essence de se demander, puis la restriction du strip, t'sais. Fait que... Ouais, c'est cousin, là, t'sais.
C'est cousin, puis j'imagine qu'il y a des contextes où, mettons, en BD, avec le style minimaliste, des fois, les jokes peuvent aller peut-être un peu plus loin que ce que tu présenterais en sketch ou ce que tu dirais sur scène, parce que il y a le recul que le dessin impose, dans le fond.
Ouais. Non, il y a vraiment des affaires trash puis noires dans des bandes que tu t'en rends même pas compte, en fait, là, que c'est juste à cause que le style, il peut excuser. Il y a vraiment de la méchanceté gratuite d'avoir des enfants pour aucune raison, plus que genre, ah, ben c'est le punch de cette joke-là, tu sais. Mais que tu pourrais pas t'en nécessairement faire.
CKRL.
Salut, ici David Bugeaud de Fudge. Cette année, on a l'honneur d'être porte-parole artistique du Radioton de CKRL. Les 26, 27 et 28 avril prochains, on t'invite à te joindre à nous autres et à donner généreusement. Parce que CKRL, c'est une radio différente qui joue un rôle essentiel à la culture d'ici. Le Radioton de CKRL, c'est le rendez-vous annuel pour soutenir ta station communautaire préférée. Manque pas ça!
Le 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants qui sortent des sentiers battus, du 13 au 19 mai 2024. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense.
Qui est-il donc?
Un valet.
Du 8 au 11 mai 2024, la troupe de théâtre Les Grands Enfants vous présente la pièce « Le jeu de l'amour et du hasard » de Marivaux, une comédie classique actualisée par la mise en scène de Valérie Boutin. Les représentations ont lieu à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette du mercredi au samedi à 19h30 ainsi que le samedi à 14h. Les billets sont au tarif de 22 $ ou 18 $ pour étudiants et disponibles au lesgrandsenfants.com.
Ici Pierre Dolbecq qui vous invite à la deuxième édition du Diapason Fest qui aura lieu le 9 mai prochain au Quartier de Lune. Un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à CKRL et à la Fondation Emplisson, avec des prestations des artistes émergents suivants. Juillet, Uriel, Hidden Bliss et Pretty Smile. Joignez-vous à nous pour encourager notre scène locale émergente. Les billets pour le Diapason Fest sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 25 $.
Ce printemps, les femmes sont à l'honneur au Palais Montcalm. La diva pop jazz canadienne Andrea Superstein célèbre la parentalité avec son concert Oh Mother.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'incomparable violoncelliste Joran présente Eminet Set Duo, un spectacle intimiste tout en force et en fragilité. La talentueuse Eliane Elias marie sa musique jazz à ses racines brésiliennes. Voyez-la en compagnie du respecté contrebassiste Mark Johnson.
Tell me what we have. Have the day and night.
Chloé Sainte-Marie propose un voyage à travers les langues et la culture des Amériques avec le spectacle Maudit Silence. Détails au palaismontcalm.ca.
Bonsoir et bienvenue aux transmissions transversales, édition du 23 avril, édition pré-Radioton CKRL aussi.